Frères et sœurs, si je vous posais la question ce matin, quel est le jour le plus important de votre vie? Et le silence se fut. Je vais répondre pour vous autres. Certains vont dire le jour de ma conversion. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'autres diront le jour de mon mariage. De ton baptême, oui. D'autres diront le jour de ma retraite. Enfin, libéré du travail. Mais je vais vous dire, la Bible dit que le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Le psaume 118 dit ceci, puis je vais vous lire le verset parce que vous semez le lien que de citer. Il est écrit ici, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Voyez-vous, hier est passé, on ne peut rien faire avec hier. On peut tirer des leçons, on peut regretter des choses, mais hier est passé. Demain n'est pas notre pouvoir non plus. Alors qu'est-ce qui nous reste? Aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu peut accomplir de grandes choses dans votre vie. On a chanté des belles choses, croyez-vous ce qu'on chante, vous autres? Tu me libères, tu me pardonnes, tu me guéris, tu me donnes la paix, la joie, alléluia! Eh bien, je crois que c'est pour nous autres. Aujourd'hui. Ce n'est pas mon message de ce matin. Mon message est celui-ci. Mais c'est bon pour aujourd'hui. Oups! Affermis tes frères. Et on va lire les premiers versets de la première épître de Pierre, où il écrit ceci. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. L'apôtre Pierre, comme vous le savez, faisait partie de la garde rapprochée du Seigneur Jésus avec Jacques et Jean. L'apôtre Pierre est celui qui avait Jésus à être transfiguré sur la montagne, dans sa gloire à venir. L'apôtre Pierre, avec Jacques et Jean, est entré dans la maison de Jaïrus et il a vu Jésus ressusciter la petite fille de Jaïrus. L'apôtre Pierre est celui qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». L'apôtre Pierre est celui qui a marché sur l'eau et combien d'autres choses également. Mais l'apôtre Pierre est aussi celui qui a nié à trois reprises de connaître Jésus de Nazareth, avec serment en prononçant des malédictions contre lui-même. Et pourtant, l'apôtre Pierre a écrit deux lettres qui nous sont restées dans le Nouveau Testament. À ma connaissance, je crois qu'il est le seul auteur de toute la Bible à avoir renié Dieu ou connaître le Seigneur. Ça nous montre, frères et sœurs, la grâce de Dieu envers chacun. Ça, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un d'autre aurait pu l'écarter, dire, Pierre, c'est fini avec toi, on te met de côté, c'est terminé, au contraire. Et le Seigneur avait prévu le coup. Parce qu'il lui a dit ceci en l'évangile de Luc, juste avant d'aller à la croix, Jésus a dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le croc ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies trois fois nié de me connaître. Et malgré toutes ces affirmations, c'est ce que Pierre a fait. Heureusement, Pierre s'est repenti et le Seigneur lui a pardonné. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Pierre n'a pas laissé la culpabilité, parce que c'était grave, là. Tu sais, avoir vécu avec Jésus pendant 3 ans, assister à tout ça de miracles, et l'a nié de connaître le Seigneur. Mais, heureusement, Dieu l'a pardonné, il n'a pas laissé cette culpabilité-là, et la hantise de sa faute, l'écraser dans l'apitoiement, et finalement dire, non, je suis bon à rien, puis je vais rester comme ça. Non, au contraire. Il s'est ressaisi par la grâce de Dieu. Et frères et sœurs, lorsqu'on pêche, qu'on est infidèle à Dieu, qu'on manque à quelque chose, si on se repent, qu'on demande pardon, il nous pardonne. Amen. Il nous pardonne. Vous savez, il y a une image qui m'est revenue à la pensée. Lorsque j'étais à l'école primaire, même au secondaire, on avait des tableaux dans la classe, puis avec des craies et puis des effaces. Et on pouvait remplir le tableau de toutes sortes de choses, mais quand on passait l'efface, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Il n'y avait plus rien. Avec Dieu, c'est pareil. Quand le Seigneur passe l'efface, il n'y a plus de péché. Il est pardonné, lavé de mon péché, comme on a chanté ce matin. Et Pierre a été pardonné, gracié, merci Seigneur. Le diable va venir pour nous accuser, pour nous ramener encore nos choses du passé, puis, ah oh non, tu as fait ceci, mais regarde comment tu as fait cela. Au contraire, le Seigneur Jésus m'a pardonné. Alléluia. Évidemment, on est tous tentés. Évidemment, il peut nous arriver de trébucher tôt ou tard. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça arrive. On trébuche. Et là, on peut penser à ce que Paul écrivait aux Romains en disant que je veux faire le bien, mais je fais le mal que je veux pas. On est dans un conflit intérieur avec ça. On a un désir, puis tout à coup, on s'aperçoit qu'on faiblit. Et on trébuche. Mais merci Seigneur. Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu, qui par Jésus-Christ m'a pardonné. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation qui existe. Plus de condamnation qui existe pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis libéré de toute culpabilité et de toute condamnation. Merci Seigneur. Et je suis convaincu que Dieu m'aime en dépit de mes fautes. Nous, on a été habitués, en tout cas pour moi, quand j'étais enfant, à l'église où on allait, c'était pas une église évangélique, bien sûr, et puis on était habitués qu'il fallait faire quelque chose pour plaire à Dieu. Mais on ne peut pas rien faire de plus que ce que Dieu a fait pour nous. Il nous aime tel qu'on est, puis il nous transforme. Rappelez-vous l'histoire du fils perdu et du père. Quand le père est revenu son fils qui s'en venait comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru devant lui, il l'a pris dans ses bras, puis il l'a embrassé, puis tellement content. Il a pardonné ce que le fils avait fait. Et le fils, en ayant réclamé sa part d'héritage, c'est comme s'il souhaitait que son père meure. Et le père passe l'éponge là-dessus. Pour notre Père céleste, c'est pareil, frères et sœurs. Lorsqu'on lui demande pardon, il passe l'éponge, et puis il ne voit plus nos fautes, il nous voit purifiés. Béni soit Dieu. Le psaume 130 dit ceci. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Merci Seigneur. Il ne tient pas compte de nos fautes, mais il nous pardonne. Alors Pierre n'a pas été disqualifié, mais rétabli pour accomplir le ministère auquel le Seigneur l'appelait. Affermis tes frères, lui a dit Jésus. Nous sommes sauvés pour mener une vie utile à Dieu et à nos frères et sœurs. Vous voyez ça? Utile à Dieu, utile à nos frères et sœurs. On est appelé à participer à l'affermissement de nos frères. Comment? Aimez-vous les uns les autres. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. Également, pardonnez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Qui peut faire ça? Tous les enfants de Dieu. Nous pouvons faire ça. Nous sommes appelés à le faire également pour contribuer à l'affermissement de nos frères et sœurs. En d'autres mots, s'intéresser à l'autre. Se préoccuper de l'autre. Quand on est allé à Rimouski en fin de semaine dernière, on a rencontré un couple qu'on connaît depuis longtemps. Et ce couple-là, ils ont 80 ans maintenant. Et depuis leur conversion, il y a au moins une quarantaine d'années, ils ont toujours à cœur d'accueillir les étrangers. Et comme à Rimouski, il y a une université, à chaque année, des étudiants, souvent africains, qui arrivent à l'église. Et eux, ils sont toujours allés vers eux. On a toujours à cœur d'aller vers ces gens-là, nous autres. Et même à 80 ans, ils continuent de s'en occuper encore. Ils les invitent pour un repas, ils font du transport pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'auto, alors ils font du transport, toutes sortes de choses. Accueillez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que je peux faire envers mon frère ou ma sœur? Peut-être appeler quelqu'un qui, à cause de son état de santé, ne peut pas venir à l'église ou à cause de son âge. Vous savez, prendre des nouvelles de quelqu'un, ça ne coûte pas cher. Le téléphone, c'est gratuit, parce que c'est pas gratuit, mais Ça coûte pas cher. Ben. Alors, vous appelez, vous parlez autant de minutes que vous voulez. Mais vous écoutez aussi. Prends des nouvelles des uns et des autres. Vous savez, c'est apprécié. Les gens s'apprécient. Ah, tiens, des fois, il y a des gens qui n'ont pas un appel de personne dans la semaine. Parce qu'ils n'ont pas de famille, ils sont isolés. Et si quelqu'un appelle prendre ses nouvelles, ils sont contents de ça. Appelez nos frères et sœurs qui sont plus âgés, maintenant incapables de venir eux-mêmes. Ou d'autres que j'ai vus qui publient sur Facebook. Merci Seigneur. Des versets, des pensées chrétiennes. Gloire à Dieu pour ça. D'autres encore qui vont offrir leur service. Je peux te faire un service, je peux t'amener chez le médecin, je peux t'amener ici. On peut faire des choses, mais surtout, on peut prier les uns pour les autres. On peut s'informer que quelqu'un a un besoin, je vais prier avec toi si tu veux. Je vais prier pour toi cette semaine. C'est bon de se rappeler de ça, frères et sœurs. Quel que soit votre âge. Dans le temple, servait le Seigneur jour et nuit, nous est dit. Et lorsqu'elle a vu l'enfant Jésus, elle s'est mise à parler Jésus à tout le monde. Elle avait 84 ans. Elle cherchait à affirmer la foi des gens autour d'elle par sa connaissance de ce qu'elle avait de Jésus. Pierre écrit, « Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. » Alléluia! Qui est de nouveau ici? Amen! Moi, ça va faire 44 ans que je suis né de nouveau. Au pire, hein? Merci Seigneur! Alléluia! D'ailleurs, j'aime mieux l'âge du nouvel homme que du vieil homme. Alors, regardez pas l'apparence, mais regardez plutôt le nouvel homme. C'est plus important. Mais quel privilège et quelle bénédiction de naître de nouveau. Avant ma conversion, je n'ai même pas pensé que ça pouvait exister. J'étais croyant, mais c'est croyant comme bien du monde. Mais quand tu te convertis vraiment, il se passe quelque chose en toi que tu dis, ah ben là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu veut que chacun de nous naisse de nouveau. Qui qu'on soit. Et ça, c'est bon de l'âge de 4 ans à 104 ans. Tout le monde peut naître de nouveau. Accessible à tous. C'est indispensable pour recevoir la vie nouvelle et éternelle. On peut avoir des bonnes valeurs. Moi, j'en connais des gens qui ont des bonnes valeurs. C'est du bon monde. Mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, ça s'arrête là. Nicodème était un bon monsieur. Jésus dit quoi? Il faut, Nicodème, que tu naisses de nouveau. Il faut. Ce n'était pas juste une suggestion, une nécessité. Et la nouvelle naissance, elle se produit au jour de la conversion. Pas besoin de suivre toutes sortes de cours, de formations pour arriver à ça. C'est compliqué, tout ça. Moi, j'ai fait de la méditation transcendantale. Puis on disait qu'après, il y avait comme 7 niveaux de conscience de Dieu. Mais qu'après 7 ans, j'arriverais à la conscience de Dieu. Mais je n'ai fait un an, je me suis arrêté là. C'est long, 7 ans. Puis en plus, c'est une tromperie. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, mais c'est une tromperie. Ça. La nouvelle naissance, elle est miraculeuse. On est sujet d'un miracle de Dieu le jour où on est de nouveau. Amen. Un miracle. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. C'est un miracle, c'est Dieu qui le fait en nous. Elle est spirituelle. C'est pas une réforme de la nature humaine. On va l'améliorer. On va essayer de mettre un peu de vernis là-dessus. Non. C'est quelque chose de neuf qui se fait. Dieu veut le faire en chacun de nous. Et quand on est nouveau, là, on le sait. Ça nous change. Je me souviens d'un frère à Drummondville qui, lui, avant sa conversion, il disait pas deux mots sans sacrer. Après sa conversion, sans même faire d'effort, il sacrait plus. Il y avait comme une crainte de Dieu, un changement dans son cœur. Ça ne sortait plus, ces mots-là. Merci Seigneur! Pour lui, c'est vraiment un témoignage qu'il s'était passé de quoi en lui. Il se passe des choses en nous. Quand on est nouveau, il se passe des choses en nous. On est passé de la mort à la vie. À ma conversion, j'ai eu l'impression comme si pendant des années, j'avais marché dans une forêt sombre, très, très feuillue, très sombre, et arrivé soudainement dans une clairière ensoleillée. Les ténèbres à la lumière. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Dieu fait ça pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ça. Comment naître de nouveau? Par la foi en Jésus-Christ. De son sang, on a chanté ce matin, qui nous purifie, qui nous pardonne. Par sa résurrection, nous dit l'apôtre Pierre ici. On naît de nouveau, on passe de la mort à la vie. Merci Seigneur. Il dit pourquoi? Pour une espérance vivante. Le psaume 27 dit ceci. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et quand David a écrit cela, il était dans une situation très difficile. Il y avait de l'adversité contre lui. Et quand vient l'adversité, frères et sœurs, c'est là qu'il est bon de se rappeler de ses paroles. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. C'est l'espérance qui va nous soutenir bien des fois dans les circonstances ardues de la vie. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, je le louerai encore. Espère, ça revient comme un refrain qui revient dans la Bible. Elle nous soutient dans les jours moroses, l'espérance. Dans la maladie, dans la tristesse, elle va nous soutenir. Dans les situations où l'issue est tout à fait incertaine. Je vais vous parler d'un couple canadien ce matin qui était missionnaire et leur témoignage. Malgré la fatigue, l'épuisement, la faiblesse, Dieu veut qu'on espère en lui. Pierre dira plus loin, mettez toute votre espérance dans la grâce. Pour un héritage, qui m'a hérité d'un million ici ce matin? Pas plus que ça. Bon, on va en mettre plus, 2 millions. 10 millions, non? Mais je vais vous dire, l'héritage qui nous est réservé, ça vaut plus que la fortune de la reine d'Angleterre. Il n'y a rien sur terre qui peut équivaloir à cet héritage-là. On ne le voit pas. C'est sûr qu'un héritage terrestre est apprécié. Hein? Mais imaginez l'héritage céleste. C'est extraordinaire ce qui nous attend. Et Pierre dit, un héritage aussi indestructible que la parole de Dieu. Un héritage terrestre, ça finit par s'user. Si tu hérites d'une auto, tôt ou tard, elle va se maganer et tu vas l'envoyer à Ferrari. Si tu hérites de vêtements, ils vont s'user. Si tu hérites de l'argent, tu vas finir par le dépenser. Finalement, tu n'auras plus. Ben, tu n'auras plus pour un temps, c'est tout. Mais l'héritage céleste, lui, il est pour l'éternité. Et puis, il ne va pas se détériorer. Pierre dit, un héritage ne peut se souiller. J'ai trouvé un jour intéressant que le mot souiller, c'est le mot amiantos. D'où le mot amiante. Et l'amiante, c'est un matériau naturel qui est très résistant. D'ailleurs, au sous-sol ici, dans tout du bureau du pasteur, je ne sais pas si c'est encore là, mais dans le temps, ça y était, il y avait des panneaux d'amiante au plafond, parce que c'est la chambre de fournaise qui est là. S'il peut prendre, le pasteur est protégé. Pour un temps. Un héritage qui ne se souille pas, qui n'est pas altéré par le feu, par l'usure du temps, par toutes sortes de choses, il ne se détériore pas. Qui ne peut perdre son éclat. L'or et l'argent, ça perd son éclat, n'est-ce pas? L'argent, il faut le flotter de temps en temps. L'or aussi, parce que bon, ça brille moins. Mais celui-là, il ne perd pas son éclat. Qui vous est réservé dans le ciel. Alléluia. Qui a hâte d'aller au ciel ici? Qui n'a pas hâte? Ok, avez-vous entendu aller? Qu'est-ce qui nous est réservé au ciel? Je vais vous dire ce qui ne sera plus au ciel. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de déception. Plus de problèmes de la vie. Plus de dettes. Ils ont payé. Mais en plus de cela, il y aura la présence de Dieu tel qu'il est. Alléluia! Présentement, on a une révélation partielle de Dieu. Imaginez rentrer au ciel. D'ailleurs, on va le lire tantôt, Pierre qui dit qu'on va le voir tel qu'il est. Alors, au ciel, frères et sœurs, ça va être extraordinaire ce qui nous attend là. Et en plus, le livre de l'Apocalypse nous dit que là, on va avoir accès au fruit de l'arbre de vie. On va recevoir une couronne de vie, la manne cachée, un nom nouveau, des vêtements blancs et bien d'autres choses. Et vous savez quoi en plus? Au ciel, il n'y aura pas de chicane d'héritage. Parce que sur terre, ils vont chamailler pour des couteaux et des pochettes. Mais pas au ciel. Merci Seigneur. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. Et le texte original dit que Pierre avait dans la pensée comme gardé comme une garnison à l'intérieur des murs, en sécurité. Gardé par la puissance de Dieu. S'il y a une puissance qui peut nous garder, c'est celle de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le lieu le plus sûr au monde, c'est sous la présence de Dieu. Le plus sûr au monde, c'est celui-là. Lorsque Jésus-Christ, gardé par la puissance de Dieu, alors, et Pierre nous parle ici aussi, du salut prêt à être révélé dans les derniers temps, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre annonce sa venue prochaine. Et nous savons qu'il reviendra. Depuis ma conversion, qu'on m'en parle. Mais en fait, Pierre en parlait déjà 2000 ans auparavant. Mais nous savons que nous sommes plus près de son retour que jamais. Je me souviens, lorsque j'étais à Rimouski, il y avait une jeune femme qui disait, « J'espère que le Seigneur ne reviendra pas avant que je puisse me marier. » Mais aujourd'hui, elle est mariée par des enfants. Le Seigneur a entendu sa prière. Pas ceux qui retardaient à cause d'elle. Mais il reviendra. Il reviendra au moment où on ne s'y attendra pas. Il y en a qui vont être occupés à toutes sortes de choses. D'autres vont dormir, d'autres vont être au travail, d'autres vont être en vacances, d'autres vont faire des projets de mariage, et Jésus revient. Et si c'était aujourd'hui, qui sait? Mais il va revenir. Les anges ont dit aux apôtres et aux disciples qui étaient là, qui ont vu Jésus monter au ciel, il reviendra de la même manière que l'a vu monter au ciel. Et Pierre, et Paul et Jean parlent de sa venue. Mais ce qui me préoccupe le plus par rapport à ce menu, c'est que mes bien-aimés soient convertis avant qu'ils reviennent. Parce qu'après, la conversion va coûter cher. Il faut prier pour eux. Je continue dans la première épître de Pierre, les versets 6 à 9. C'est ce qui fait votre joie, tout ce qu'on vient de parler. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. C'est ce qui fait votre joie, mais maintenant, puisqu'il le faut, j'ai vérifié dans d'autres versions bibliques, peut-être qu'il y a vu celui second qui a écrit ça, puisqu'il le faut. Non, les autres aussi. Puisqu'il le faut, pour un peu de temps, vous êtes attristés par différentes épreuves, par différentes situations de la vie qui vous éprouvent, qui ne sont pas des plus agréables. Dans quel but? Raffiner notre foi. Nous changer, nous transformer. Vous savez, dans l'épreuve, notre prière première, Seigneur, libère-moi de ça. Et parfois, le Seigneur veut faire quoi? Il veut nous libérer de nous-mêmes. Tu me libères de chanter ce matin. Alors, parfois, il veut faire un travail en nous que nous, on ne voit pas tout de suite. Mais pour un peu de temps, c'est toujours trop long. N'est-ce pas? C'est toujours trop long. Mais Pierre dit que pour un peu de temps, vous êtes attristé. La peine, la souffrance, l'abattement, le découragement. Comme le prophète Élie, qui a demandé à mourir. Frères et sœurs, si jamais ça vous passe par l'esprit, demandez plutôt à vivre. Dieu va vous exaucer. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous accompagne. Demandez la vie. Jésus, le prince de la vie. Il est celui qui va nous donner la vie abondante et la vie éternelle. Et Dieu va vous donner la force de supporter l'épreuve. On ne le voit pas toujours quand on est dedans, mais pourtant c'est le cas. Dieu n'est pas menteur, il le dit. Il vous donne la grâce de supporter et le moyen d'en sortir. La force de supporter l'épreuve pour vous en faire sortir. Ésaïe 49 nous dit quoi? Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Il parlait de la ville de Jérusalem, mais c'est vrai pour chacun de nous aussi. Il ne nous oubliera pas. Absolument pas. Souvenez-vous que les compagnons de Daniel, pour regarder le nom de fois, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas seulement trouvé la délivrance, ils ont trouvé que Dieu était avec eux. Il y avait un quatrième qui marchait avec eux dans cette fournaise. Et dans l'épreuve, ça nous rappelle que Dieu est avec nous aussi. dans la fournaise de l'épreuve. Puis, ils ont été délivrés. Et le feu n'a même pas atteint leurs vêtements, même pas touché. Le temps de souffrance n'est pas insignifiant, il n'est pas inutile, il a un but. On ne le voit pas tout de suite. Le temps d'épreuve est un temps où Dieu, comme dans un atelier, travaille sur un objet quelconque ou travaille sur nous pour nous changer, nous transformer, nous façonner, nous rendre semblables à lui. Dieu a de l'ambition pour nos vies, n'est-ce pas? Il a de l'ambition pour ses enfants. Jésus, le premier-né d'un grand nombre de frères et sœurs, et ils sont appelés à devenir semblables à lui. Mais on ne comprend pas toujours tout de suite. C'est bon, vous parlez d'un couple, j'ai parlé tantôt. Kevin et Julia Garrett, missionnaires en Chine pendant 30 ans. Ils étaient avec les Assemblées de la Pentecôte du Canada. Ils étaient professeurs d'anglais. Et en 2008, ils ont vécu dans différentes villes, mais en 2008, ils sont déménagés dans la ville de Dandong, près de la Corée du Nord. Ils ont ouvert un café avec service communautaire. Ils sont impliqués dans un orphelinat. Et des étrangers de différents pays, des chrétiens, venaient pour les aider dans leur ministère qu'ils accomplissaient là-bas. Et c'était un témoignage pour les gens de la ville de Dandong. Le 4 août 2014, alors qu'ils sortaient d'un ascenseur d'un restaurant, 18 agents de police ont surgi et ils les ont emmenés chacun dans une voiture séparée, dans un camp assez éloigné, séparés l'un de l'autre d'ailleurs, sans nouvelles l'un de l'autre. Les premiers mois, ils avaient des interrogatoires quotidiens qui pouvaient durer jusqu'à 6 heures. On les a obligés à rédiger des pages et des pages de leurs activités des 30 dernières années. On les a accusés d'espionnage, de vol, de diffusion de secrets d'État, ce qui était tout à fait faux. Ils ont été menacés, surveillés 24 heures par jour, 7 jours sur 7, par 2 gardes. Ils étaient surveillés. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur arrestation était une mesure de représailles que le gouvernement chinois a prise à l'égard d'un espion chinois qui avait été arrêté au Canada. Donc, le gouvernement chinois a usé de représailles en arrêtant ce couple-là, les faisant un prisonnier, et ainsi de suite. Eux, ils ne savaient pas ça. Heureusement, lorsqu'on les a arrêtés, on leur a permis d'amener leur Bible avec eux. Merci Seigneur. Ils avaient leur Bible. Et voici ce que dit Julia. Dieu a un plan dans tout ce qu'il fait. Attendre en fait partie. Souffrir est un fruit. Comme nous attendons et souffrons est... Comment nous attendons et souffrons est un choix. Comment nous vivons cette attitude de souffrance et d'attente? Et elle dit, nous avons besoin souvent de faire un zoom de recul afin de voir la plus grande image de notre vie dans le plan de Dieu. Nous, on voit notre vie là, mais Dieu a une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus grande, et il voit notre vie au travers de son plan. Au milieu d'une souffrance psychologique intense, nous avons besoin de laisser sa présence renouveler nos esprits par ses plans et ses vérités, afin qu'on ne fasse pas que survivre, mais qu'on se développe et qu'on serve. Dans les temps d'épreuve, on ne peut pas seulement survivre, mais on veut voir comment cela peut nous amener plus loin à grandir dans le Seigneur. Les jours s'étiraient. Ils étaient sans nouvelles l'un de l'autre. Je ne sais pas pourquoi on les accusait de choses qui étaient fausses. Elle dit, la force humaine et le courage peuvent vaciller, mais sa force nous renouvelait et nous rappelait que nous n'étions pas juste dans l'attente d'être relâchés. Nous étions un témoignage vivant d'un espoir plus grand. Dieu utilise notre souffrance légère et momentanée pour manifester son amour intime. C'est des choses qu'elle a apprises. Alors, après 6 mois, Mme Garrett a été libérée, mais sans pouvoir quitter le pays. Elle était en liberté provisoire, sans pouvoir quitter la Chine. Lui a été transféré dans une cellule avec 13 autres détenus. Des détenus de droit commun, voleurs, toutes sortes de choses. Alors, il a pu témoigner à ces hommes-là pendant des mois de temps. Et il est devenu malade, souffrant, et il s'est rappelé le psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Le procès a eu lieu plus d'un an et demi après sa détention. Et là, ça a pris du temps, ça a pris 4-5 mois avant qu'il reçoive le verdict. Et le verdict est tombé, coupable, 8 ans de prison. Trois jours plus tard, Kevin serrait sa femme, ses quatre enfants et ses trois petits-enfants à l'aéroport de Vancouver. Vous avez entendu parler d'eux autres dans les médias? Je me souviens d'avoir entendu parler, en parler dans les nouvelles. Il y a un couple canadien arrêté en Chine et tout ça, on savait l'histoire. Eux ne savaient pas pourquoi ils étaient en prison, ils l'ont su plus tard. Et à ma connaissance, vous mettez la diapositive suivante, voilà, ils se sont retrouvés. À ma connaissance, je ne crois pas qu'ils soient revus pendant ces deux ans-là. Deux ans, un mois et demi qu'ils sont restés là-bas, que lui est resté en prison. Je ne crois pas qu'ils soient revus. Lui peut recevoir la visite de membres du consulat canadien pour le soutenir, mettez-vous en présence de gardiens qui avaient les yeux ouverts, les oreilles attentives à tout ce qui se disait. Alors, il était vraiment sous haute surveillance, mais par des négociations du gouvernement canadien, finalement, il a été relâché. Mais aussi, grâce aux prières de centaines, de milliers de chrétiens qui savaient l'histoire. Merci Seigneur. Ça nous rappelle, frères et sœurs, de prier pour nos frères et sœurs qui sont détenus dans les prisons du monde, dans des camps et des choses comme celles-là, ils ont besoin de nos prières. Et eux, je le dis aussi, ils ont beaucoup apprécié les prières des frères et sœurs dans le monde. Ils ne savaient pas tout ça, mais ils ont su par la suite combien de gens priaient pour eux. Je continue, Mme Garrett dit encore ceci. Dieu est au travail en liant notre histoire personnelle à sa grande histoire de bonnes nouvelles et de grande joie pour tout un peuple. Des gardiens, des officiels du gouvernement chinois et des détenus ont été les témoins aux premières loges de l'Évangile. Parfois, ce n'est pas tant tout ce qu'on dit, mais ce qu'on est aussi. Et par leur témoignage, ils ont pu être les témoins, ces gens-là ont été témoins donc de chrétiens. Voyez-vous, frères et sœurs, tout autour de nous, il y a des gens qui nous observent. Et ça, on ne sait pas toujours, mais ils nous observent. Ils nous regardent aller, parce qu'ils savent, surtout s'ils savent qu'on est chrétiens, ils nous observent encore plus. Et quelle occasion pour nous avons de rendre témoignage à ces gens-là, qui nous connaissent de près ou de loin, qui voient notre vécu, notre façon d'agir, notre façon de parler. Et ça, bien souvent, ils ne vous le diront pas, mais ça les impressionne. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup autour d'eux comme ça. Des gens qui vont parler en bien des autres et non en mal. Des gens qui vont bien se conduire, qui vont refuser des compromis inacceptables et bien d'autres choses comme celle-là. Notre vie de chaque jour, notre conduite est un témoignage pour les gens autour. Le résultat est celui-ci. La louange, la gloire et l'honneur envers Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Et Pierre dit donc, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable, je vais trouver le bon mot parce que là, c'est perdu. Tant qu'elle dit à peu près, je veux dire la vérité. D'une joie merveilleuse et glorieuse, c'est ça. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Au prix de votre foi. Et j'ai trouvé une illustration intéressante dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur chercher une épouse dans son pays d'origine pour son fils Isaac. Le serviteur est arrivé là, et puis il y avait une jeune fille qui est là, qui apportait, donnait à boire à ses chameaux, et puis il a vu vraiment, le serviteur a vu que Dieu conduisait ses pas pour trouver cette jeune femme-là, et il a commencé donc à lui offrir des anneaux, des bracelets, des objets en or, en argent, des vêtements et tout ça, et de lui parler du fils de son maître qui attendait une épouse. Et donc, de ses richesses, de ce qu'il était, tout cela. Il lui a demandé, veux-tu partir avec cet homme? Il a dit oui! Et il avait cette joie anticipée de le rencontrer et d'être avec lui. Quitter son pays. Frères et sœurs, un jour, on va quitter cette terre pour participer aux noces de l'agneau. Alléluia! Dieu nous appelle donc à être l'épouse qui se prépare en vue de ce jour-là. Une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous dit l'apôtre Paul. Et le Seigneur dispose à l'Église déjà son épouse sur cette terre, déjà des richesses, la puissance du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, la présence de Dieu, son amour envers nous, la fraternité qui nous entoure. Merci Seigneur, des richesses, frères et sœurs, que le monde ne peut pas nous donner, mais que Dieu nous offre à chacun de nous, en vue de ce qui nous attend au ciel. Je termine par ces versets de ce que Pierre a écrit encore au verset 13. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que dit que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » Le mot « saint » ici ne veut pas dire la perfection. On est loin d'être parfait. Mais on aspire à cela. On va aller vers cela. Comme Paul dit, « Je cours vers le but. » Alors, on aspire à cela, à une vie meilleure. Et pas parce qu'on veut être saint pour être saint, mais parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, Dieu nous appelle à cela, frères et sœurs. Il nous exhorte à quoi? À la vigilance. Tenez votre esprit en éveil. Jésus le dit à plusieurs reprises. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Soyez aux aguets sur vos gardes. Ne vous laissez pas contrôler par les circonstances, vous distraire par les choses de cette vie qui sont tellement attrayantes. C'est vrai que tout ce qu'on peut voir, toucher, admirer, tout ça, c'est tellement présent, réel. Mais les choses de Dieu, le royaume de Dieu est encore plus réel que cela. Ce qu'on voit va passer un jour. Ça va être détruit par le feu, nous dit la Bible. Mais ce qu'on ne voit pas va durer éternellement. Le ciel nous est réservé, frères et sœurs. Et Pierre rappelle encore ici son retour. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il reviendra, c'est sûr. Pierre l'attendait avec les autres aussi. Et notre vie doit être un reflet de notre Père céleste, un Père saint, plein de grâce et de bonté. Notre vie peut refléter ce qu'il est envers chacun de nous. Un temps de vacances, c'est un temps pour se reposer, un temps pour relaxer, c'est un temps pour faire la grâce matinée, c'est un temps pour... Mais qu'on puisse en faire un temps aussi pour prendre plus de temps avec Dieu. Quand on travaille, pour ceux qui travaillent à temps plein, là, on court souvent du matin au soir. Parce que surtout si on est marié, qu'on a des enfants, là, ben, c'est beaucoup de choses à voir en même temps. Puis... Mais quand on est en vacances, on va prendre un peu de temps pour être plus près du Seigneur. Ouvrir sa parole, la lire davantage, prier, mettre à l'écoute, écouter des chants, lire un livre, mais quelque chose qui va nous édifier, nous rafraîchir, nous faire du bien aussi. Dieu veut cela, afin qu'on soit renouvelé dans notre esprit. Je demande aux musiciens de venir maintenant. Dieu veut nous affermir, frères et sœurs. Il veut nous rendre inébranlables. Il veut nous fortifier. Ça se peut qu'on passe par des moments, des périodes difficiles. Mais Dieu, celui qui nous voit, et comme pour le couple Garrett, ils ne connaissaient pas l'issue de leur situation. Et ils étaient ambivalents, parfois un peu découragés, un peu déprimés, mais Dieu avait trouvé une parole pour eux, un chant, un verset pour les encourager à s'attendre encore à lui. Et ils n'ont pas été déçus. Dieu était au rendez-vous. Ils ne savaient pas combien de temps ça durerait. Et nous, on ne sait pas non plus. Il y a des choses dans la vie que je ne comprends pas toujours, moi. Pourquoi certains chrétiens sont éprouvés pendant X années sur des choses et d'autres pas? C'est Dieu seul qui sait tout ça. Mais Dieu dit une chose, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Et au travers de cela, il a un plan, il a un but, il veut m'amener à m'affermir en lui. S'affermir en lui. Parce que les tentations sont nombreuses. Parce que le monde, c'est alléchant, pas vrai? Le monde, c'est attrayant. Il y a tellement de choses faciles. Et on peut aussi se relâcher tout simplement parce que la vieille nature, ça ramollit. Alors, il faut que l'homme nouveau se raffermisse et qu'il tienne ferme aussi. Amen. On va chanter un chant, si vous voulez. Je vais vous demander de vous lever ensemble. On va chanter un chant. Qu'on puisse tourner encore ce matin nos cœurs et nos pensées vers Dieu. Le Seigneur dit qu'il veut faire des choses parmi nous. C'est aujourd'hui le jour du salut, le jour de la délivrance peut-être, le jour de la guérison, le jour d'un exaucement, je ne sais, mais Dieu le sait. C'est le jour où Dieu veut encore agir dans nos vies, nous changer, nous guérir, qui sait. On veut s'attendre à lui. Et pendant qu'on va chanter un chant, frères et sœurs, quelle que soit votre situation, mettez votre confiance à nouveau dans le Seigneur. En son amour inaltérable, son amour insurpassable, son amour qui est durable, son amour qui est sans condition. Et le Dieu de toute grâce vous fortifie dans cela, vous relevez. Et si vous êtes souffrant dans votre corps ou dans votre âme, si vous le voulez, approchez devant ici. On va prier avec vous. Réclamez une guérison de la part du Seigneur. Guérison dans votre corps, guérison dans votre âme. Le Seigneur est ici au rendez-vous encore aujourd'hui. On le croit, on le sait, on veut s'attendre à lui. Chantons ensemble. Si vous